Marathon des mots présente Une année 2020 Juin Benoît Séverac Funérailles posthumes Cher papa, j'ai décidé de ne pas croire à ta mort. Tu es tombé malade une semaine après le début du confinement. Une simple grippe pour commencer. Une forte fièvre qui s'est transformée en une toux grasse, puis rauque, puis sifflante. Tu as commencé à souffrir d'essoufflement. Et puis, les difficultés respiratoires. C'est à ce moment-là que nous avons appelé le SAMU. Quand les brancardiers t'ont emmené, je ne t'ai même pas dit au revoir. Personne n'y a pensé. Nous étions inquiets, nous t'avons regardé partir dans l'ambulance, nous t'avons fait un signe de la main et puis voilà. Nous ne t'avons jamais revu. Pendant que les scientifiques s'écharpaient dans les médias, le virus te taillait en lambeaux. Les uns fustigeaient la Chine, les autres menaçaient le monde politique de la vindicte populaire. L'heure des comptes viendrait avec celle du déconfinement. Les docteurs nous ont ordonné de ne voir personne pendant 15 jours et de surveiller le moindre symptôme. Mais aucun de nous n'en a présenté. Nous avons attendu, chacun chez soi, suspendus au coup de fil du personnel soignant qui nous donnait des nouvelles quotidiennes de toi. Elles n'étaient pas bonnes. Nous avons appris ta mort au téléphone le 8 avril 2020. Tu t'es donc battu contre la maladie pendant plus de 2 semaines. Les médecins ont affirmé que c'était exceptionnel. Je me demande s'ils n'ont pas dit cela pour nous consoler, comme dans ces lettres que l'armée envoie aux familles des soldats tombés au champ d'honneur. Il est mort en héros. Il a fait preuve d'un courage exemplaire. Maman a souhaité te voir, évidemment. Nous nous sommes précipités à l'hôpital, mais là, interdit de pénétrer, pas même sous 3 couches de plastique jetable. Le service ne s'appelait plus Réa, mais Covid. C'était écrit en gros au marqueur sur un papier scotché à l'entrée du bâtiment. Les autorités sanitaires n'ont même pas permis notre présence à ton enterrement. Pas de veillée funèbre, pas de messe, pas de discours, pas de musique, pas d'oraison funèbre non plus. Ceci n'est pas une lettre de revendication. Je ne veux pas créer de problème. Je ne suis pas de nature contestataire ou révolutionnaire. Je ne cherche pas à obtenir ton exhumation, par exemple. Je n'incite pas davantage les familles dans le même cas que nous à se révolter et à exiger de voir le corps du défunt. Je considère simplement ta disparition comme nulle et non avenue. Après la levée officielle du confinement, maman, en tant que personne à risque, n'a pas pu quitter son domicile. Nous n'avions pas non plus le droit d'aller lui rendre visite. Il a fallu attendre le 18 juin, plus de 2 mois après ton décès, pour qu'elle et moi puissions te rendre un hommage aussi émouvant qu'incongru. N'ayant pas pu le faire le jour de ton enterrement, nous avons parcouru en voiture l'itinéraire de la chambre funéraire de l'hôpital au cimetière Rapace où tu reposes. Des funérailles à titre posthume, en quelque sorte. J'aurais pu faire le trajet seul dès la fin du confinement, mais sans maman, je ne m'en suis pas senti le droit. Nous avons proposé à Jean-Philippe de venir, mais l'idée l'a dérangé. C'est la raison pour laquelle, en dehors de lui, nous n'en avons parlé à personne, conscient que nos motivations seraient difficilement comprises ou mal interprétées. Certains, dans la famille, y auraient vu un acte déplacé. Ils nous auraient accusés de vouloir mettre ta mort en scène. 2 mois après ta mise en bière, ils ne l'auraient pas accepté. Comment leur dire que maman avait besoin de ce trajet virtuel pour rendre ton départ plus réel et ainsi faire son deuil plus aisément? Dès que j'ai démarré, elle s'est redressée dans le siège côté passager pour mieux voir la route et me parler. Tu te souviens, quand il est tombé de l'échelle en voulant ramasser les pommes les plus hautes de l'arbre? Tu parles si je m'en souviens. On n'a pas pu partir en camping à cause de sa chute. Il fallait toujours qu'il fasse le fanfaron. C'était pour t'impressionner, j'ai dit, en posant ma main sur sa cuisse. Elle a souri, aujourd'hui encore flattée de l'amour que tu lui portais. Je l'ai trouvée coquette et touchante. Et en même temps, j'ai pensé que sa cuisse était trop maigre. Elle a perdu du poids depuis ta mort. Il faudra que je fasse attention à ce qu'elle mange cet été. J'ai vécu cette mort sans cérémonie comme une transgression. Je ne suis pas croyant, mais je me suis aperçu que j'étais attaché à certains rites. Ce manquement aux usages m'a beaucoup affecté. Je ne suis pas le seul. Maman et Jean-Philippe, mais aussi ta sœur et tes beaux-frères et belles-sœurs, mes oncles et tantes, ainsi que tes amis, tous ceux qui t'aimaient ont ressenti ce vide. Et je ne parle pas de celui que tout défunt laisse dans une fratrie, un couple ou un cercle de copains. Maman, qui, contrairement à moi, n'a pas rompu avec l'Église catholique, a très mal supporté qu'un prêtre n'ait pas eu la possibilité de recueillir ton ultime confession et de t'absoudre par la même occasion. On s'en moque de tes péchés. Ils étaient certainement véniels, mais un prêtre t'aurait peut-être apporté du réconfort, un soutien. Maman en a reparlé dans la voiture. Ton père et moi n'allions pas souvent à l'église, mais nous étions croyants. Tu ne l'es plus, maintenant qu'il est parti ? Ai-je dit pour plaisanter. Maman a mis sa main devant la bouche, comme si elle venait d'être prise en flagrant délit de blasphème. « Si, bien sûr !» J'ai éclaté de rire, et puis, tout de suite, pour la rassurer, « Je plaisante, maman. Que tu es bête !» Il faisait beau à Toulouse en ce mois de juin. Nous avons croisé des jeunes dans une voiture décapotable. Ils brandissaient leurs masques comme s'il s'agissait de prises de guerre. Ils riaient et hurlaient, et tout le monde dans la rue pouvait profiter de la musique qu'ils écoutaient. « La vie continue !» a dit maman, sans la moindre aigreur dans la voix. Elle a toujours été plus généreuse que nous. Moi, je n'arrive pas à digérer le fait de ne pas avoir pu t'embrasser. Tu le sais, puisque c'est un principe que tu nous as enseigné, nous faisons confiance aux forces républicaines dans cette famille. Nous n'avons aucune raison de ne pas l'accorder aussi à ce cadre A de la fonction publique qui a signé ton permis d'inhumer. Mais nous aurions aimé voir, toucher, palper, sentir. D'abord parce que je suis convaincu que le mort lui-même a besoin d'un temps pour jouir une dernière fois de l'atmosphère terrestre, juste avant d'entrer dans des limbes que chacun nomme comme il l'entend. L'âme n'est plus là, peut-être, mais le corps, si. Et bien qu'il n'y ait plus de douleur, plus de pesanteur, il ne faut pas manquer la douceur d'un souffle d'air, plus imaginé que véritablement perçu, le regard des amis endeuillés que l'on devine. Quelques murmures échangés autour de la dépouille, quelques larmes versées pour que ceux qui doivent tant à celui qui n'est plus puissent exprimer leur reconnaissance et dire « au revoir ». Ensuite, un doute subsiste et subsistera toujours. Aussi tenace que mon ressentiment, tu es passé directement de trépas à tombeau, du service de réanimation au caveau familial. Tout cela sous l'œil plus ou moins bienveillant d'un employé de la mairie de Toulouse, masqué et ganté, qui nous assure depuis que c'est bien toi qui gis sous cette dalle de granit. Mais c'est dur. Et c'est lourd. Je me suis garé dans la rue qui longe le cimetière, derrière le lycée Déodat de Séverac, et nous avons fini le trajet à pied. Le soleil tapait, maman chancelait un peu, plus tellement habituée à marcher après être restée enfermée si longtemps. Même l'air, le vent et les odeurs dégagées par les massifs en fleurs lui donnaient le tournis. Il n'a pas été facile de te retrouver. Tu occupes la première concession de la famille en terre toulousaine. De fait, maman et moi n'avions jamais eu l'occasion de nous rendre au caveau familial, vierge jusque-là. Nous avons dû le repérer sur le plan en ligne du cimetière, grâce au site internet des pompes funèbres municipales. Nous avons suivi des empreintes dans le gravier. Celle d'un corbillard, peut-être le tien. Puis nous avons tourné dans la troisième allée et sommes enfin parvenus à toi. Dire que tu nous attendais depuis plus de 2 mois. Enfin, nous avons pu nous recueillir. En silence, tout d'abord, Puis, au bout de quelques minutes, nous avons recommencé à évoquer ton souvenir. Maman m'a demandé si je connaissais les circonstances dans lesquelles vous vous êtes rencontrés. Elle l'a raconté mille fois. Mais j'ai fait semblant de ne l'avoir jamais entendu et je lui ai posé les mêmes questions que d'habitude. Elle y a répondu en souriant. Dans ses yeux, tu vivais encore un peu, papa. Puis, elle a essayé de se figurer comment c'était le jour où tu as été enterré. Était-ce le matin ou l'après-midi? Faisait-il beau? Elle ne se souvenait plus. Je crois que oui, lui ai-je répondu, sans prendre trop de risques car le soleil a brillé pendant tout le confinement. Nous avons pleuré, aussi, plus sur le fait que tu es parti seul que sur notre sort. C'est l'unique moment où maman a montré de la colère. Elle ne comprend pas où résidait le danger si nous t'avions accompagné. J'aurais porté un masque et des gants. J'ai été infirmière. Je ne suis pas plus bête que les autres. Le virus ne m'aurait pas sauté à la figure. On ne laisse pas les malades du sida ou d'Ebola mourir seuls, alors. Je ne suis pas parvenu à la consoler. Je n'avais pas les mots. Sur le chemin du retour, maman m'a fait remarquer que les allées des cimetières ne portaient jamais de noms de personnalités illustres, à l'instar des rues des villes. Pourquoi des lettres et des chiffres, et pas des écrivains ou des musiciens célèbres? Tu aimais tant les romantiques et les impressionnistes, papa. Cela t'aurait plu de te savoir pour l'éternité aller Berlioz ou Claude Monet. Au lieu de quoi, tu es en C4. Touche écoulée. Une mauvaise plaisanterie. Ou, moins trivial, le cavalier prend le fou. Mais tu ne jouais pas aux échecs. Tu ne goûtais guère les jeux de société, mais tu n'appréciais pas davantage les épanchements. Tu dois donc te demander pourquoi une telle lettre. Je te vois d'ici, me lire en désapprouvant, sourcils froncés. Ce front plissé qui m'impressionnait tant. Un médecin de l'hôpital, pensant bien faire, m'a dit « Son heure était venue ?» Je déteste cette expression. Il n'y a pas d'heure pour mourir, il n'y a d'heure que pour vivre. Et la mort ne vient que lorsque les vivants cessent de parler de vous. Alors voilà pourquoi cette lettre, papa. Pour qu'on continue à parler de toi. Pour remplir les églises vides. Pour prendre le temps de contempler et méditer. Pour un dernier regard endeuillé, pour verser des larmes, murmurer quelques mots autour de ta dépouille. Pour qu'une dernière brise souffle sur ton visage tourmenté, sur ton front plissé, et t'emporte, enfin apaisé.